Bonsoir Anne-Marie.
Oui, allô, bonsoir Céline.
Soyez la bienvenue.
Oui, je ne sais pas par où commencer. Bon, j'ai fini l'année 2020 pour moi. Ça n'a pas été vraiment du top. Ça a été très dur au niveau émotionnel.
Oui.
D'abord, ça a commencé par le décès de ma mère le 12 janvier. Mais pendant très longtemps, j'ai été fâchée avec mes parents. Je ne voyais plus ma famille.
Mmh.
Et puis, ça faisait quelque temps où j'avais renoué contact avec ma mère. Et du coup, autour de ma mère, avec mes sœurs, on s'est retrouvées. Et ça s'est bien passé. Et donc là, on est toujours en lien. Mais bon, émotionnellement, ça a été quand même un gros choc.
C'est les montagnes russes, en plus, forcément.
Oui, c'est les montagnes russes.
Mais ce que j'entends, c'est que c'est quand même positif qu'elle soit partie sur une ambiance apaisée, en tout cas.
Tout à fait. Mais il faut savoir que toutes les trois, entre-temps, on avait quand même suivi des thérapies.
Oui, j'imagine, oui, bien sûr.
Il y a eu un travail.
Ça ne tombe pas du ciel tout seul, ce genre de...
Non. Ouais. On se serait retrouvés avant. Je pense que ça ne se serait pas si bien passé que ça.
Oui.
Et j'ai terminé l'année avec le décès de mon mari.
Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mon mari refusait de se faire soigner. Ça fait quelques années qu'il traînait. Il avait été hospitalisé. Il doit y avoir 4 ans de ça pour une anémie. Il avait été transfusé. Je voulais qu'il fasse des examens, mais il était très têtu. Il n'avait absolument pas confiance aux médecins de ma ville, à l'hôpital. Il faut dire qu'on avait eu pas mal de soucis. Que ce soit pour moi, pour mon fils après, on avait eu pas mal de... Bon, ça s'est toujours plus ou moins bien passé.
Ouais.
Et refusé de faire une coloscopie. Et donc, au mois d'avril, il a été opéré d'un cancer. Quoi, il a beaucoup traîné. Et au mois d'avril, on a fait venir plusieurs fois SOS médecin. Et puis après, il a été hospitalisé. Et moi, je rentrais du travail un dimanche. Et le chirurgien m'appelle et m'annonce tout ce qu'ils lui ont enlevé. Et donc de là, au mois d'avril, après, mon mari, il a nié son cancer, en fait.
Il a quoi, pardon? Il a
nié son cancer.
Nié, oui.
Oui, complètement nié. Oui. Plusieurs fois, il me disait, je suis rentrée à la clinique pour une histoire de constipation, il m'a trouvé un cancer. Je disais, mais attends, ça sort pas du ciel, c'est pas le chirurgien qui l'a inventé. Après, ils me disaient qu'ils avaient mal fait leur boulot. Je dis non, on t'avait prescrit une coloscopie, t'as pas voulu la passer, ils s'en rappelaient plus. Donc après, j'ai arrêté.
Mmh.
Et puis, on est parti, on avait un peu d'argent, donc on est parti. Il a voulu aller à Perpignan, on est allé à Perpignan. Il a voulu aller à Lille. Lille, c'était sa ville d'origine. On est allé à Lille, il a pu aller sur la tombe de sa marraine, donc qu'il avait élevée jusqu'à l'âge de ses 3 ans. Il faut dire, quand on s'est rencontrés tous les deux, je pense qu'on était deux grands blessés de la vie.
Oui.
De notre enfance, j'aurais été soignée avant, je ne serais jamais mariée avec lui. Mmh. On s'est retrouvés sur nos problèmes, voilà.
Ça faisait un peu écho chez l'un et chez l'autre.
Oui. Pas du tout la même histoire, mais ça faisait écho. Et puis, après de Lille, on est allé chez notre fils. Notre fils, il s'est occupé, il avait mon petit-fils donc avait un problème d'impétigo. Mon mari s'est démené alors qu'il avait des douleurs, etc. Mais il voulait s'occuper de son petit-fils, quoi. C'était le premier aussi. Hein. Il s'est donné à fond, puis il voulait toujours se sentir utile aux autres. Et donc j'avais l'impression que ça allait bien. Et puis quand on est rentré au mois de septembre, il a passé un PET scan et... Il a d'abord passé un scanner, donc au scanner on lui dit rien, parce qu'avec ses douleurs, moi je pensais, et lui aussi pensait qu'il y avait des métastases osseuses, et au scanner il n'y avait rien, il envoie tout de suite un message, et téléphone tout de suite à notre fils en lui disant il n'y a rien. Moi derrière son dos j'envoie un message à mon fils en lui disant attends les résultats.
Attends la suite, oui. Bah oui.
Oui, parce que j'étais sûre qu'il y avait quelque chose. Et au PET scan c'était un cancer généralisé de toute façon. Donc ça, il l'a bien entendu. Moi, j'ai repris mon travail à la rentrée. Et puis après, je me suis arrêtée parce qu'il ne voulait pas rester tout seul. Je me suis arrêtée et je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Il est décédé à la maison.
Ça a dû être douloureux.
Ça a été douloureux. Alors, j'ai eu des gros moments de colère. J'ai été beaucoup en colère contre lui parce qu'il ne voulait pas trop que je sorte. D'un côté, je comprenais ses angoisses, mais d'un autre côté, moi, je ne pouvais pas. J'avais l'impression de lui servir à rien parce qu'on ne parlait pas trop. C'était quelqu'un d'assez secret. Et puis à la fin, quand j'ai vu qu'il souffrait, il n'y avait plus de problème, quoi. À la fin, je sortais le matin avec ses bistrots fermés, tout ça. Je buvais mon café dans un square. Je me prenais une heure le matin où je téléphonais, où, etc. Et l'après-midi, je restais avec lui. Mais si j'allais dans une autre pièce, il m'appelait. Mais t'es où ? Et chez nous, c'est tout petit. Je disais, mais tu veux que je sois où ? Donc, je sentais qu'il y avait une angoisse. Il aimait que je sois, en fait, assis à côté de lui.
Et est-ce que vous avez quand même, oui, est-ce que vous avez pu vous parler avant qu'il s'en aille ? Est-ce qu'il a quand même lâché un peu quelques émotions ?
Non, il a lâché aucune émotion. Par contre, au début, mon fils m'a trouvé un peu dur. Il y avait mon fils, parce que moi, longtemps, je lui demandais ce qu'il souhaitait. Donc, au niveau de son enterrement, pour savoir ce qu'il voulait, puisqu'on n'avait pas les mêmes. Nous, on n'était pas très religieux, mais mon mari m'avait quand même emmené à Lourdes. Il priait la Vierge, etc. Donc, je voulais savoir. Donc, là, il a dit ce qu'il voulait. Donc, il voulait un enterrement à l'église. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'il voulait avec notre fils. Mais sinon, ses émotions, non, jamais.
Non. Et vous dire au revoir posément avant qu'il parte ?
Non.
Non plus.
Alors, il a passé la dernière nuit, mon fils était parti le vendredi matin. J'ai bien compris qu'il fuyait, mais c'était inconscient. Parce que quand j'en ai parlé, il m'a dit non, moi je voulais passer Noël avec mes enfants. Je lui ai dit, mais j'ai compris, ma belle-fille n'attendait pas avant le 24 décembre. Puis après, il me dit, mais t'as peut-être raison, mais je ne supportais pas. Voir mon père comme ça, c'était trop dur.
Ben oui, je comprends, ouais.
Donc, mais je l'ai parfaitement compris. Donc, le vendredi matin, mon mari s'est levé. Quoi, il a fallu que je l'aide pour se lever. Et le vendredi soir, j'ai absolument pas pu le mettre au lit. Et il a passé toute la nuit de vendredi à samedi dans son fauteuil. Il était glacé. Et moi, au départ, je comprenais pas. Il arrêtait pas de m'appeler pour que je l'aide à se redresser. Puis à un moment, je l'engueulais. Je disais, mais on va pas y arriver. Je l'ai un peu brusqué jusqu'à 11h du soir. Oui, je l'ai brusqué. Et puis après, j'ai essayé d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent m'aider à le coucher, mais ils m'ont dit qu'ils ne se déplaçaient pas pour ça, que j'avais qu'à appeler le SAMU. Moi, appeler le SAMU, je ne voulais pas le faire hospitaliser. Je n'avais pas compris que c'était la fin. Et il a passé toute sa nuit à dire merci, 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 et à compter. Donc, c'était toute la nuit, c'était merci, merci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, merci, merci. Et je n'ai pas pu savoir à qui il disait merci. Ah oui. Et puis, il déparlait. Il me voyait trois télés, il voulait que je coupe des fils. Il n'était pas là. Et
oui, il y avait un délire là qui se mettait en place.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Le samedi matin, j'ai appelé l'infirmière libérale. Quoi, j'ai envoyé un SMS pour qu'elle passe en début de sa tournée, pour qu'elle m'aide à le coucher. Et il a été agité tout le matin, alors qu'elle m'avait dit de donner son somnifère. Il a été agité tout le matin. Puis vers les 2-3 heures, je lui ai donné à boire. L'infirmière est repassée, on lui a mis un patch et après il s'est endormi paisiblement. Et moi j'étais au téléphone avec ma belle-fille, à un moment elle me dit « si t'allais le voir » et je suis allée le voir, il était décédé.
Comment vous vous êtes sentie à ce moment-là ?
Eh bien à ce moment-là, j'avais décidé que je lui ferais sa toilette, que je l'habillerais. J'ai appelé le médecin, les pompes funèbres, donc j'étais dans... J'ai rien ressenti en fait. J'ai l'impression de rien avoir ressenti.
Oui, il y a un état d'anesthésie assez fréquent à ce moment-là. Pour le cerveau, c'est trop. Et on est dans l'action pour ne pas s'écrouler en fait. On fait les choses mécaniquement. Oui. Hein, c'est ça, on enchaîne tout ce qu'il y a à faire. Dieu sait qu'il y en a à faire. Et bah, c'est comme si on était un robot, quoi.
Tout à fait. Et puis j'avais prévu dans ma tête, pendant que. Bon, avant qu'il décède, je m'étais renseignée aux pompes funèbres. Je m'étais renseignée sur lui, comment il voulait être habillé. Je m'étais dit, tu lui feras sa toilette. Tu le prépareras toi-même. Donc, tout le monde me dit, dans mon entourage, t'es courageuse. Je dis non, ça, je veux pas l'entendre. Pour moi, il fallait que je fasse ça. Je pense que c'était ma survie aussi, quelque part.
Il faut qu'on s'accroche à quelque chose. Donc, pour vous, effectivement, c'était ça. Oui, bien sûr.
Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était pas du courage. Bon, il faut dire qu'à la base, je suis aide-soignante. Je fais pas beaucoup de. J'ai pas... Dans mon service, on n'avait pas énormément de décès. Hein. Donc ça, je n'avais jamais fait. Je l'ai fait pour la première fois pour mon mari.
Non, mais c'est instinctivement ce qui vous a tenu debout, quoi.
Je pense. Et puis, les projets que j'avais faits. Alors, j'avais l'impression d'être un peu ingrate parce que mon mari, je lui disais, mais de toute façon, moi, je déménage. Je ne reste pas dans cet appartement. Oui. Mon mari, il accumule tout. Et la semaine avant sa mort, là, il y avait mon fils. Et Je lui ai dit, mais avec tout ton bazar, ça va me retomber dessus. C'est moi qui vais m'en dépatouiller. Mon fils me faisait des signes. Non, c'est pas le moment. Mais je ne pouvais pas me retenir parce que quelque part, je l'en voulais aussi.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'exaspération et de colère hein, contre
oui.
lui.
Oui, parce que
il
ça
vous a
pas
fait
toujours
supporter
été...
beaucoup de choses, oui, c'est ça.
Ben, c'était quelqu'un au caractère très fort. Qui prenait soin de tout le monde, ça, oui. Mais qui avait un caractère très fort. Et quand il avait décidé de ne pas se faire soigner, il ne se faisait pas soigner. Moi, je pouvais dire ce que je voulais. De toute façon, c'était non. Donc, oui, alors j'ai ressenti, et c'est pour ça que des fois, ça me fait culpabiliser, parce que j'ai ressenti aussi comme un sentiment de liberté, en me disant, ben maintenant, je pourrais aller voir donc mon fils plus tranquillement.
Bien sûr.
Je pourrais m'absenter. Je pourrais, voyez, je pourrais faire ce que je veux, entre guillemets.
Et pourquoi vous vous sentez coupable de penser ça ?
Eh bien, parce que normalement, on doit être triste. Alors là, ce soir, ouais, je suis un peu triste. C'est la première fois depuis qu'il est enterré que ouais, ça me fait presque pleurer.
Alors, normalement, je sais que c'est un mot que j'aime pas. Il n'y a aucune normalité dans la vie, vous savez.
Oui,
chacun a sa normalité à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai beaucoup pleuré quand il était à la chambre funéraire. Mm-hmm. Parce que du coup, j'y allais tous les jours. Des fois, j'y restais même peut-être un peu trop. Et ce qui m'a sauvée aussi, c'est que si vous voulez, après l'enterrement, donc on l'enterrait le 24 décembre. Et le 25 décembre, je repartais avec mon fils. Et j'étais chez mon fils avec sa femme et ses petits-enfants. Donc, ça m'a fait une coupure avant de revenir à la maison. Mmh. Mais là, ouais, je suis bien entourée. J'ai toujours quelqu'un au téléphone qui prend mes nouvelles, qui vient me voir. Là, aujourd'hui, j'étais chez des amis. Et ce soir, je ne sais pas, j'avais le besoin d'en parler, quoi. De
vous poser pour en parler. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça fait très longtemps que c'est vous qui vous occupez de tout le monde, et surtout de lui. Et que là, d'un seul coup, ça se calme, ça se pose, et sont les autres qui s'occupent de vous. Et ça fait du bien aussi. Hein.
Ça fait du bien, mais j'ai du mal. Quand on me dit, si tu as besoin, tu appelles, et ben, je ne peux pas appeler si j'ai besoin.
Et alors, je vais vous poser la question à l'envers. Si une de vos amies venait de perdre son mari, vous appelait en ayant besoin d'aide, vous iriez ou n'iriez pas ?
J'irais.
Alors voilà. Pourquoi pour vous, ça ne marche pas ?
Mais...
Pourquoi dans votre sens, ça ne fonctionnerait pas ?
Alors, j'ai beaucoup appelé. Il y a quelqu'un que j'ai beaucoup appelé, c'est mon ancienne cadre de service.
Mmh.
Et là, j'étais chez elle, je suis allée manger chez elle l'autre jour, parce que c'était quelqu'un de très humain, de très empathique, Donc, elle m'a beaucoup aidée toute cette période.
Et vous savez que dans 99% des cas, quand on demande de l'aide, quand on a perdu quelqu'un, les gens sont ravis de vous aider. Hein.
Au contraire,
ils sont souvent démunis parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont maladroits parce qu'ils ne savent pas. Donc, quand on leur dit « j'ai besoin de ça ou de ça », mais 9 fois sur 10, ils sont ravis de vous tendre la main.
Ah, mais je sais, j'ai eu des collègues au téléphone, mais notamment une. Jamais j'aurais cru qu'elle m'aurait appelé autant que ça. Et j'ai été agréablement surprise. J'ai été beaucoup soutenue. Hein. Mais après, je me dis, elles sont toutes plus jeunes que moi, elles sont mariées, elles ont des enfants. Tu ne vas pas les déranger sans arrêt aussi. Donc, de temps en temps, j'appelle. Quand vraiment je ne peux plus, j'appelle, oui.
Bon, quand même.
Mais je n'ai pas envie de déranger sans arrêt. Là, je suis contente parce que, bon, il faut que je passe ma visite médicale, mais je dois reprendre le travail aussi. Donc, voilà, ça fera du bien. Et puis, je dois vous dire que là, en ce moment, je trimasse à la maison. J'ai pas peur, mais je n'arrive pas à me coucher. Mais je n'arrive jamais à me coucher, donc je m'endors très tard. Donc j'espère qu'avec le travail, je vais retrouver une régularité dans ma vie, quoi.
Mais est-ce que ce problème de sommeil, c'était avant son départ ?
Oui, avant son départ.
Ça n'est pas lié.
Non, c'est pas lié. Non, ça date de très longtemps. J'ai horreur d'aller me coucher.
C'est encore autre chose. Ça. Mais pour en revenir à ce que vous ressentez, si je comprends bien, ce qui vous gêne, c'est cette ambivalence des sentiments.
Voilà.
C'est comme si dans une grande marmite, il y avait plein de sentiments qui peuvent paraître un peu antinomiques, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement. Vous savez, quand quelqu'un disparaît, on a tendance à toujours parler de ses qualités, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défauts. Hein.
On a
aussi le droit d'être soulagé parce que la personne nous pourrissait la vie ou nous était compliquée. Et on peut avoir un sentiment à la fois de manque, d'amour, de chagrin et de soulagement. Et ça me paraît complètement normal.
D'accord.
La mort n'efface pas tout du jour au lendemain non plus. Hein.
Ah oui, non, mais je sais bien.
Et j'entends bien que la vie n'a pas été facile tous les jours avec lui.
Non, mais d'autre part, il m'a sauvée aussi. Il faut savoir que moi, j'ai fait quand même 2 tentatives de suicide, donc j'en avais fait une avant de le connaître.
Oui, d'où l'ambivalence des sentiments, bien sûr, évidemment.
Voilà. Bon, je suis toujours suivie, hein, mais là, j'ai pas pris de rendez-vous encore parce que ce n'est pas mon planning. Mais je suis toujours suivie. Je vois mon psychiatre, là, passé un temps, je voyais tous les 15 jours. Là, j'ai reposé à tous les mois, sans traitement, sans rien. Mais au moins, ça me permettait aussi de parler à quelqu'un de neutre et de dire ce que je ressentais sans avoir peur de jugement.
Bien sûr. Vous savez, nous ne sommes pas en un seul morceau, nous ne sommes pas un bloc de pierre et nous avons le droit d'avoir des sentiments différents en nous. Mais je comprends que c'est difficile à vivre, cette ambivalence, forcément, parce que il y a plein de choses qui se mélangent en même temps dans le cœur et dans l'esprit.
Oui. Voilà.
Par contre, il y a une chose que j'aimerais que vous enleviez tout de suite, c'est la culpabilité. D'accord. Et je vais vous redire ce que je dis régulièrement quand on parle de ça. Avez-vous fait volontairement quelque chose de répréhensible ou qui aurait pu faire du mal à quelqu'un ou à lui? Non, ben voilà. Donc vous n'êtes coupable de rien.
On est coupable.
Non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas faire du mal volontairement, c'est des engueulades de couple. Oui. Mais souvent, quand quelqu'un s'en va aussi, très souvent, j'entends dire je me sens coupable de ci, de ça, j'aurais dû, j'aurais pas dû. D'abord, la culpabilité ne change rien du tout. Et ensuite, on est coupable de quelque chose quand on a voulu nuire volontairement. Si on a voulu nuire volontairement à quelqu'un, alors on est coupable. Et là, il y a un autre travail à faire pour se pardonner à soi-même et demander pardon à l'autre, même rétroactivement. Mais tant qu'on n'a pas volontairement cherché à nuire à quelqu'un, on n'est coupable de rien. Et je ne crois pas que vous ayez volontairement cherché à faire du mal à votre mari.
Ah non. Je pense que je l'aurais fait du mal si j'avais demandé au 15 de venir et qu'il meurt sur un brancard. Là, je m'en serais voulu, par contre, énormément.
Et bien donc, vous n'êtes coupable de rien.
Voilà. Non. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Non, j'ai tenu. Je ne me sens même pas coupable de l'avoir, de m'être fâchée, de m'être énervée contre lui la dernière nuit.
Bon.
En début de nuit. Je suis contente de m'être calmée après, par contre, oui.
Bon, c'est bien, donc il n'y a plus de culpabilité en tout cas.
Oui.
Ça ne sert à rien, oui. Ça encombre et ça n'a aucun sens.
C'était aussi vis-à-vis de mon fils. J'ai mes petits-enfants qui encore pleurent, alors qui mes petits-enfants, ils sont hyper, hyper sensibles.
Mmh.
Et le deuxième, l'aîné a 7 ans, donc c'était... Mon mari s'était beaucoup attaché à lui, c'était le premier, donc mon fils a eu une petite fille qui est décédée avant, sa première est décédée. Et le deuxième, et ben le garçon qui a 7 ans, mon mari s'était beaucoup attaché à lui, était très proche de lui, et le petit aussi. Et lui, il parle beaucoup, il s'exprime, mais là, il n'a pas beaucoup exprimé de choses, et mon fils me disait, c'est comme lui ne réalisait pas, comme s'il ne réalisait pas. Alors que son frère, qui a 5 ans, son frère se fâche énormément, puis beaucoup de colère, a du mal à exprimer. Et lui, par contre, il s'est beaucoup exprimé. Et là, dernièrement, il a encore pleuré la nuit. Et c'est son frère qui l'a dit à ses parents, qui a dit le lendemain, Raphaël, il a pleuré.
Alors peut-être pourriez-vous,
peut-être pourriez-vous
à ces deux enfants leur offrir le magnifique livre de Jean-Jacques Charbonnier qui s'appelle « La mort expliquée aux enfants ».
Alors, je sais que mon fils a eu pas mal de bouquins que ses collègues lui ont donnés, qui avaient perdu quelqu'un. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont lu.
Quel livre ils ont eu entre les mains, mais en tout cas, je vous recommande vivement Jean-Jacques Charbonnier, La mort expliquée aux enfants.
Jean-Jacques Charbonnier, oui.
La mort expliquée aux enfants. Ça a même été, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est sorti en bande dessinée même.
D'accord, mais je réécouterai en podcast et je noterai tout.
Je pense que ça pourrait leur faire du bien pour les aider à s'exprimer.
Et pour les enfants, j'ai autre chose à vous demander aussi. Alors moi, j'ai pris, parce qu'ils n'ont pas pu venir à l'enterrement. Donc mon fils me disait, ils ont pu voir mon mari peut-être 3 semaines avant qu'il décède. Ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils habitent dans la région parisienne. Quoi, ça fait des kilomètres. Ils sont venus peut-être 3 semaines avant. Mais ils n'ont pas pu assister à l'enterrement. Et mon fils me disait, j'ai l'impression que pour eux, il y a quelque chose qui n'est pas fini.
Oui,
et donc, nous, on a pris des photos à la chambre funéraire. Et est-ce que c'est opportun de leur les montrer?
Sincèrement, je ne trouve pas.
D'accord.
Ce qui me paraîtrait plus opportun, c'est de faire un acte symbolique qui pourrait marquer Je ne sais pas forcément lequel, là, je réfléchis en même temps que je vous parle. Peut-être les amener sur un lieu neutre où ils pourraient planter un arbre en s'en souvenir. Ou peut-être aller sur une rivière, laisser partir un mouchoir ou un foulard, quelque chose qui pouvait lui appartenir. Marquer ça par un acte symbolique dont ils se souviendront, mais qui soit beau. Parce que montrer des photos des enfants, c'est quand même très dur.
Mais je sais bien.
Et j'ai peur que ça puisse être quand même un traumatisme.
Oui. D'accord.
En revanche, là où je rejoins votre fils, c'est que c'est compliqué de commencer un deuil quand on n'a pas terminé quelque chose, effectivement.
Donc et là,
le fait d'instaurer quelque chose de vraiment symbolique, d'aller ensemble quelque part, que ce soit dans une forêt, dans un jardin au bord d'une rivière, d'enterrer un galet, pourquoi pas, quelque chose qui pourrait, pour vous et pour eux, être un petit moment symbolique de recueillement et de deuil qui commence, si vous voulez.
D'accord.
Et vous pouvez même leur demander ce qu'ils ont envie de faire, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez leur dire, est-ce que vous préférez enterrer un galet qui représente papy ou laisser s'envoler sur une rivière un mouchoir à lui, quelque chose. Peut-être que vous le diront directement. Les enfants sont très imaginatifs pour ça.
Oui, non, mais ça, je ne me fais pas de souci pour leur imagination. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi de les emmener au cimetière quand ils viendront?
Ça, c'est à eux de vous le dire s'ils en ont besoin ou pas.
D'accord, parce que moi, je n'avais pas trop envie, parce que ce n'est pas fini. Il faut que je mette la pierre tombale et j'ai peur de voir qu'un tas de terre...
Non, ne le faites pas tant que ce n'est pas fini et faites-le uniquement s'ils vous le demandent. Même si c'est plus tard, n'obligez jamais des enfants à ça.
Ah non, mais tout à fait.
L'acte symbolique pour un enfant, c'est vraiment un joli chemin.
Ou alors, dans ces cas-là aussi, je pensais à une chose, mon mari avait beaucoup de cactus, donc il a pu s'en occuper. Est-ce que ça serait pas mal que je leur achète un cactus et leur dire, vous l'emmenez à la maison, un petit? Et ça peut symboliser le papier.
Alors, ça pourrait être bien, là où il faut être prudent, c'est que ça peut mourir un cactus. S'il y a trop d'eau, s'il y a trop ceci, trop cela, attention qu'il ne s'attache pas à quelque chose qui pourrait périr à nouveau et que ça pourrait virer au drame.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est pour ça que je préfère un objet qui ça soit quelque chose qui reste à ce moment-là, vous voyez.
D'accord.
C'est un peu fragile, un cactus, et ça pourrait facilement devenir très compliqué s'il faut un report là-dessus.
Ouais. Et justement, l'autre jour, la samedi dernier, j'étais avec un cousin et on a un coup de fil et c'est l'aîné, David, qui me demande comment j'allais, et puis il me dit « Papy, comment ça va ?» Et là, je me suis retrouvée complètement désarçonnée. Et je lui ai dit « Mais enfin, David, tu sais bien que papy... » Parce que je ne voulais pas lui raconter l'histoire, je ne voulais pas dire « Ça va ?» Je lui ai dit « Mais tu sais bien, papy, que papy n'est plus là. » Pardon. Et il me dit « Oui, puis il est reparti jouer. » Et non, il me dit « Oui, mais je voulais savoir là où il était, comment ça allait. » Et son frère l'a interpellé et son frère lui a dit « Mais tu sais bien que papy, il est parti, il est au ciel. » Et après, j'ai eu mon fils et mon fils m'a dit « Mais c'est David qui... » Il a demandé à t'appeler et j'ai été complètement étonnée. Et il me dit « Je ne m'attendais pas du tout aussi à ce qu'il te dise. » Et après, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit « Bah écoute, il est retourné jouer. Il y avait des copines à la maison, ils sont retournés jouer. »
Pour les enfants, de manière générale, abordent la mort avec beaucoup plus de simplicité que nous. C'était quelque chose qu'ils avaient déjà intégré inconsciemment. C'est plus tard que ça se complique.
La maman leur a expliqué, donc au deuxième, qui lui avait demandé, elle lui a expliqué qu'il partait dans le ciel, mais qu'il les verrait toujours. Elle a essayé de se débrouiller tant bien que mal. Et ça avait son explication, ma belle-fille avait eu l'air de rassurer l'enfant.
Bon, si elle a su trouver les bons mots pour son enfant, c'est très bien.
Oui.
C'est une bonne chose.
Oui, c'est vraiment bien. Et j'ai une autre question qui n'est pas du tout en rapport avec ça.
Oui.
On se demande si les petits ne sont pas au potentiel, avec une sensibilité dans leur réaction exacerbée. Mon fils n'a pas du tout envie de les faire tester, du moins pas pour l'école, parce qu'il ne veut pas qu'ils soient dans une case.
Je suis assez d'accord avec ça.
Oui, mais par contre, pour nous, on se demandait s'il n'y aurait pas des livres qui puissent nous aider dans leur comportement et comment les aborder.
Alors ça, je vous avoue que spontanément comme ça, je n'ai pas d'ouvrage qui me vient à l'esprit.
Oui.
Comment les aborder ça? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à votre attitude par rapport à eux?
L'aîné parle beaucoup, sauf là où il ne dit pas trop. Et le deuxième, c'était surtout le deuxième, il est très renfermé. quand il y a quelque chose dans sa quand il est frustré ou quand il perd ou il est capable de piquer des grosses colères et sans se calmer, quand on lui demande pourquoi, il répond je sais pas. Il a vraiment du mal à poser. En même temps, c'est un gamin qui enregistre tout. Moi, il m'a eu fait lire des, il me cite tous les noms des dinosaures, les poissons, les des trucs. Mmh. Moi, je suis complètement perdue. Là, maintenant, il en était à ses Pokémon. J'avais acheté une petite encyclopédie, c'est tous ces noms. Quoi, il enregistre vraiment d'une manière. Et les deux, j'ai l'impression qu'ils ont une sensibilité exacerbée. Et c'est comment la petite, elle est trop petite pour vous dire la petite.
Le petit dont vous parlez, il a 5 ans, c'est ça?
Oui.
Moi, il y a un livre auquel je pense qui n'a pas de lien avec le haut potentiel, mais qui a un lien avec les émotions et qui est intéressant parce que ça peut être un enfant qui va avoir du mal à exprimer ses émotions.
Oui.
Et il faut le plus rapidement possible lui apprendre à les exprimer pour pas que ça le bouffe à l'intérieur. Oui. Il y a un très joli livre qui s'appelle Petites histoires hypnotiques du soir.
Petites histoires hypnotiques du soir.
Qui a été écrit par Sabrina Ferret. Et ce sont plein de contes métaphoriques qui permettent à l'enfant d'exprimer quelque chose. Que ce soit la colère, la jalousie, la peur, des tas de choses comme ça. Bah, c'est une manière de leur ouvrir l'esprit à l'expression des émotions.
Oui, bah, c'est un gamin qui a toujours peur d'être abandonné, qui veut ses deux parents avec lui, qui ne veut pas quitter la maison.
Bah, à 5 ans, ce n'est pas non plus extrêmement rare.
Oui, mais bon, il a toujours eu ses deux parents. Il y en a un qui est prof et l'autre, bon, il les a toujours eu. La belle-fille, longtemps, n'a pas travaillé. Donc, voilà.
Moi, je pense que si les parents ne souhaitent pas les faire tester, une fois de plus, moi, je les rejoins assez là-dessus.
Oui,
je pense que simplement être attentive à leur manière de fonctionner, être à leur écoute, peut-être un peu plus vigilante, et surtout leur apprendre à exprimer leurs émotions. Oui. Et les aider, apprendre comment on exprime une émotion. Pourquoi une émotion est normale? Pourquoi il est en colère? Comment il peut exprimer sa colère? Il a le droit de le faire.
Oui.
Vous voyez, des tas de choses comme ça.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle l'éducation positive.
Ok, d'accord.
Avant d'essayer de les mettre dans des cases qui seront peut-être compliquées ensuite à gérer.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'avec l'école, il a eu des problèmes, maintenant ça va mieux. Ils ont trouvé un système, ils lui mettent des bonhommes. Si ça va bien, le bonhomme, il sourit. Si ça s'est mal passé, voilà. Il ne sourit pas ou il est d'une autre couleur, je ne sais plus.
Donc si je comprends bien, c'est l'intermédiaire, c'est l'enfant du milieu.
Oui. Ben, c'est le deuxième, ils sont trois. Et moi, j'ai toujours dit à mon fils, parce que moi, je suis la deuxième aussi dans une fratrie de trois. Et j'ai toujours dit que le deuxième, c'était la plus mauvaise place.
On le dit. On dit que c'est une place un peu plus difficile à trouver.
Oui. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'avec mes sœurs, je me suis éloignée aussi. Je ne trouvais pas ma place. Puis bon, il y avait eu de gros problèmes. On nous a fait de gros problèmes dans ma famille. Donc voilà, donc je ne trouvais plus ma place.
En tout cas, c'est sûr, ça, aussi, positif que ce chapitre-là soit apaisé maintenant.
Oui, mais là aussi, j'avais l'impression, mais c'est vrai que ça se voit que la maladie avait gagné mon mari, qu'il n'avait plus l'énergie d'avant. Mais j'ai eu l'impression un peu de le trahir. Mais ça, j'ai eu le temps de lui dire que de toute façon, lui faisait ce qu'il voulait, pensait ce qu'il voulait, mais que moi, là, c'était comme ça. Que les histoires du passé, je n'y revenais plus dessus.
Oui.
Que j'avais besoin de tourner la page. Mais là aussi, il faut que je retrouve ma place dans la famille. Et des fois, ce n'est pas évident. Vous voyez, il y a tout ça, toutes ces émotions de cette année qui sont
dures à digérer. Vous aussi, il faudrait que vous arriviez à les exprimer, ces émotions.
Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors moi, je me noie dans des séries, je me noie dans beaucoup de choses, mais j'évite d'aller trop en profondeur.
Est-ce que vous pourriez créer peut-être une petite... soit une boîte à photos, une boîte à souvenirs ou un petit arbre généalogique avec des émotions, justement, des choses comme ça. Essayez de centraliser tout ça, à la fois les souvenirs et les émotions.
Les souvenirs, ben j'ai beaucoup de photos, c'est vrai que je ne m'y replonge pas. Mon fils veut aller dans tout ce qui est généalogie, moi ça ne m'intéresse pas. Il veut recontacter des membres de la famille de mon mari qu'on ne voit pas.
Ça vous dit rien.
Moi ça ne me dit rien. Alors moi j'ai l'impression, si vous voulez, d'être quelqu'un... qui n'a pas de passé, pas de racine. Et que je n'ai pas envie de le creuser. Soit c'est une protection, je ne sais pas.
Vous avez forcément un passé, des racines. Donc effectivement, si vous n'en avez pas envie... Maintenant, personne ne vous oblige à y aller, hein, si vous n'avez pas envie de le faire. C'est pas non plus, c'est pas non plus une obligation.
Non, mais c'est ce que j'ai dit à mon fils. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas envie. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je n'ai pas envie. Vous voyez, quand le peu que j'ai pu être disponible pour la maison de ma mère... mes sœurs ont retrouvé toutes mes lettres d'adolescence. Et elles m'ont dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Je leur ai dit, vous jetez. Et je n'ai pas voulu m'y replonger. Mmh. Et j'ai pas envie. J'ai envie de vivre les choses de maintenant. Le passé, je n'ai plus envie. Mes émotions, des fois, j'ai l'impression, oui, que je me protège pour pas sombrer. J'étais en dépression pendant 2 ans et c'est trop dur à remonter.
Vous avez fait une dépression de 2 ans, c'est ça que vous me dites ?
Oui, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression en 2000, quand j'ai fait ma tentative de suicide. J'ai été arrêtée pratiquement 2 ans. Là, mon psychiatre m'a dit, il y a quelques temps de ça, il m'a dit, j'aurais jamais cru que vous repreniez le boulot. Vous avez frôlé l'invalidité. Et j'ai pas envie de ressombrer.
Je comprends tout à fait. Et je comprends que vous n'ayez pas envie d'aller dans le passé et c'est votre droit. En revanche, je serais un peu plus vigilante sur les émotions. Ce n'est pas en les étouffant qu'elles vont disparaître. Une émotion, fois encore, je vous le répète, c'est une émotion est faite pour être acceptée, exprimée, traversée et dépassée.
Alors, j'ai eu des émotions avec mon mari. Hein. Quand le chirurgien m'a téléphoné au mois d'avril, après, quand j'ai raccroché, je l'ai engueulé, mon mari. Quoi. J'étais tout seul à la maison, mais j'ai gueulé. Quoi. Je l'ai insulté, j'ai gueulé. À la maison, à la chambre funéraire, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup passé de musique que lui aimait et j'ai beaucoup pleuré. Et je pense que j'ai tout exprimé là.
Bon, au moins c'est sorti.
Et là, c'est sorti, oui. Oui, c'est sorti. Le jour de l'enterrement aussi un peu, mais c'était plus parce que je me sentais entourée, que ça me faisait du bien, donc du relâchement.
Oui. Mais quand je vous écoute, je vous trouve plutôt dans l'axe, hein, plutôt bien posé. On sent une fragilité, mais en même temps, on sent une grande force en vous, quelque chose qui s'est comme rééquilibré.
Mais je pense que toutes ces années, là, une fois, j'avais dit au psychiatre, mais ça ne sert à rien que je continue à venir vous voir. Il m'avait dit, si, je suis votre béquille.
C'est mignon.
Et donc, j'ai continué. Bon, j'y restais un quart d'heure, une fois par mois, mais ça me suffisait.
Mais, au bout d'un moment, on apprend à marcher sans béquille aussi. Hein.
Oui, mais ça me fait du bien d'aller le voir. Et là, encore plus maintenant, quoi.
Oui,
je vais reprendre je vais reprendre mon rendez-vous. Et puis c'est quelqu'un avec qui parce qu'avant j'avais déjà essayé avant de voir quelqu'un et ça n'avait jamais fonctionné. Et heureusement avec lui ça fonctionne.
Bon ben tant mieux. C'est une bonne chose.
Mais c'est une bonne chose. C'est pour ça que je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Mais je vous écoute beaucoup en podcast aussi. J'écoute et ce soir j'avais besoin de votre avis, d'un autre avis, d'une autre écoute.
Mais écoute, j'espère que j'étais là pour ça, Anne-Marie.
Oui, vous m'avez bien... Je vous en remercie, je réécouterai pour le livre en podcast, justement.
Les deux titres que je vous ai donnés tout à l'heure, oui, tout à fait.
Oui. J'entends la petite musique.
Et oui, il va déjà être 1h du matin, c'est fou comme ça passe vite, hein, quand on est ensemble.
Ouais, je vous remercie.
J'envoie une douce pensée à votre mari et je me permets de vous embrasser très très fort.
Mais je vous remercie. Bonsoir.
Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Et oui, la libre antenne, c'est terminé pour ce soir. Il est temps de refermer la page de notre émission. Merci à tous d'avoir été là de chaque côté du poste. Je vous retrouve, comme d'habitude, demain soir à partir de 23h pour de nouveaux échanges, pour de nouvelles confidences. Et d'ici là, je vous quitte avec ma phrase du jour. Pendant longtemps, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que moi, je change. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne nuit et à demain.